Bonjour à toutes et à tous. Cela faisait bien longtemps que je n'ai pas pris la parole devant vous, et cela me fait particulièrement plaisir de reprendre ce service. Surtout aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons le merveilleux acte d'amour de Jésus, mort sur la croix pour nos péchés, et sa résurrection qui nous offre la vie éternelle. Avant la lecture d'un premier verset, suivi d'un chant, je souhaiterais remettre ce moment à Dieu. Alors, prions.
Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi ce matin parce que nous t'aimons et nous voulons nous présenter pour te louer, Seigneur, et te célébrer. Célébrer l'acte d'amour que tu as exécuté envers nous, Seigneur, en mourant sur la croix. Nous voulons nous souvenir de ton sacrifice, nous voulons nous souvenir surtout de ta résurrection, Seigneur. Et nous voulons te demander de poser ta main sur nous, chacun là où nous sommes, chacun chez soi, Seigneur. À cause du confinement, mais tous ensemble, Seigneur, unis par ton esprit. Merci pour ces moments bénis, Seigneur, et donne-nous la joie, la paix de pouvoir communier, Seigneur, ensemble en ce jour béni. Amen, Seigneur. Avant de chanter un premier chant, je vous propose une lecture, je vous propose de vous offrir ce verset dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 6, et je lirai dans la version en français courant, qui nous dit « Louons Dieu pour le don magnifique » qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Amen.
Toi. continuer, je voudrais vous lire quelques versets dans Hébreux. Je lis dans la seconde 21. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ces versets m'ont particulièrement touchée. En cette période de confinement, je cogite énormément. Et au-delà de ce que je sais de, grâce à la Bible, ce que je sais du sacrifice de Jésus et de l'amour qu'il a pour nous, je réalise qu'il est vraiment impossible de rendre gloire à la hauteur de cet amour. En tant que maman, je ne peux concevoir le sacrifice de mon enfant unique. Et au-delà de la mort, même en sachant que cet acte peut sauver et que mon fils va ressusciter, comment concevoir la souffrance endurée? Car Jésus a souffert la torture, les épines, la crucifixion, comme un être humain. Oui, comment comprendre ce sacrifice volontaire? Car de nos jours, on sait qu'il s'agissait d'un châtiment extrêmement douloureux et cruel. Dieu l'a fait. Pour sauver un peuple indigne, il a choisi de sacrifier son fils. Et c'est vraiment sur ça que je veux mettre l'accent. Dieu n'a pas seulement laissé mourir Jésus pour ensuite le ressusciter. Il l'a laissé subir d'atroces douleurs humaines juste pour nous sauver. Ouvrons de nouveau nos Bibles. Je vous propose de lire dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant pour l'immense bonté que Dieu a envers nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je réalise qu'il est impossible de rendre gloire à Dieu à la hauteur de cet amour, celui de Dieu, je veux dire. Et c'est la question que je me suis posée. Cette question, qu'est-ce que je sacrifie dans ma vie? Alors, en ce moment de confinement, il pourrait être facile de trouver plein de réponses. Mais cela ne concerne que mes habitudes. La vraie question, et je vous la pose, que sacrifions-nous dans notre vie, dans nos plaisirs, pour Dieu? Du temps. Le dimanche matin, pour aller à l'église. Du temps pour se impliquer dans divers services et ministères. Du temps pour participer aux diverses réunions et activités, etc., etc. Et puis, pour ma part, je pourrais me vanter de sacrifier ma santé, puisque je ne sers jamais autant mon Seigneur que lorsque je suis malade, en témoignant auprès de toutes les personnes rencontrées dans les hôpitaux. Mais je n'ai pas choisi. Ma maladie fait partie du plan de Dieu. Il n'y a là aucun sacrifice volontaire de ma part. Alors franchement, je parle en mon nom. Je n'offre aucun sacrifice pour l'immense bonté de Dieu envers moi. À la hauteur de ce qu'il a accompli pour me sauver, pour me laver de mes péchés et m'offrir la vie éternelle auprès de lui, je lui apporte ma louange, je le prie, je le remercie pour chaque bénédiction, mais surtout, je lui demande pardon. Pardon pour mes péchés si humains.
Effectivement, on ne sera jamais à la hauteur. Ne cherchons pas à faire des sacrifices pour Dieu, mais plutôt, comme le verset de Romains 12, 1 nous y encourage, à donner nos corps en sacrifice. C'est-à-dire, ne cherchons pas à faire, mais à être des enfants de Dieu, entretenir une relation personnelle avec lui. Il nous aime, nous sommes ses enfants. Nous sommes héritiers. Et cela uniquement par la grâce qui nous a été faite dans le sacrifice de Jésus. Et surtout dans sa résurrection qui nous donne la vie.
besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs, viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre. Dans tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Avant 2 minutes de prière libre, nous souhaiterions partager avec vous 3 versets qui pour nous ont bien résumé l'étape de Pâques.
D'abord dans 1 Jean 4 au verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie.
Puis dans Philippiens 2 au verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
Ensuite, dans Romains chapitre 4 et verset 25, il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes.
À présent, prions chacun de notre côté pour notre Dieu. Amen.
Mais tous ensemble.
chercher les vivants. Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. La vie nouvelle qu'il nous a donnée, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libres. Sa gloire dans tout l'univers.
Bonjour à tous. En ce dimanche de Pâques, je vais vous raconter une histoire qui a été publiée par l'AEE, l'Association Évangile et Enfance, il y a déjà quelques années. Une histoire que j'ai trouvée très belle et qui met en scène deux personnages qui sont, dont l'histoire a retenu les noms. D'une part, un peintre, Domenico Fetti, un peintre italien baroque du début du XVIIe siècle, appartenant à l'école vénitienne, et d'autre part l'histoire d'un noble allemand, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, qui a vécu de 1700 à 1760, pasteur luthérien et qui est devenu évêque de l'église des Frères Moraves. Le peintre Domenico Fetti est plongé dans ses pensées. Finalement, il se décide et dit « Père Hugo, c'est un honneur pour moi que vous me proposiez de peindre le grand tableau qui sera placé au-dessus de l'autel. Cependant, le prix que vous comptez me payer est très insuffisant. Je devrais représenter de nombreuses personnes sur ce tableau et le faire avec grand soin, donc y consacrer beaucoup de temps. De plus, il est difficile de peindre une scène de crucifixion de nos jours, car il existe déjà de nombreux tableaux sur ce sujet. Ce ne sera pas aisé de créer une œuvre qui sorte de l'ordinaire. « L'argent n'est pas un problème, » répond le père Hugo. « Ce n'est pas l'église Saint-Hieronymus qui paiera le tableau, mais un particulier. » Parfait. Alors, revenez dans un mois, mon père. D'ici là, j'aurai fait une ébauche et vous me direz si cela vous convient. Les deux hommes se quittent, ravis d'être tombés d'accord. Domenico se met au travail avec enthousiasme et, lors de sa visite suivante, le père Hugo se déclare très satisfait. Le printemps arrive et Domenico se promène souvent dans la campagne. Au cours de ses balades, il fait de rapides esquisses sur son bloc à dessin. Un jour, il s'arrête net devant une petite tzigane qui tresse des paniers tout près de la forêt. Cet enfant est d'une incroyable beauté. Son visage présente des traits réguliers, ses cheveux noirs et bouclés lui arrivent à la taille. Elle porte une robe modeste, très usée et bariolée. Le peintre est particulièrement fasciné par son regard. La petite tzigane a des yeux vifs, sombres, dont l'expression change à chaque instant. Douleur, joie et espièglerie s'y reflètent. « Cela ferait un tableau superbe, » se dit Domenico. « Mais qui va acheter le tableau d'une petite tzigane ?» Les tziganes, on préfère les ignorer. La petite vient d'apercevoir Domenico. Elle se lève et, avec agilité, se met à esquisser une danse tout en claquant des doigts. Tout en elle exprime la gaieté et la joie de vivre. « Elle est tout simplement magnifique. Je veux faire son portrait. » En danseuse espagnole. Domenico et Pepita, c'est le nom de la petite tzigane, se mettent d'accord. Elle viendra 3 fois par semaine dans l'atelier du peintre. Le jour convenu, Pepita arrive avec la plus grande ponctualité. Dans l'atelier, elle écarquille les yeux, tout est nouveau pour elle. Elle examine les différents objets et les nombreux tableaux qui attendent un acheteur ou qui ne sont pas encore achevés. Mais celui qui l'attire le plus, c'est ce grand tableau destiné à l'église Saint-Hieronymus et qui est sur le point d'être terminé. À chaque fois, Pepita est comme fascinée par ce tableau. Un jour, elle demande à Domenico « Qui est-ce ?»«
Le Christ, » répond le peintre avec indifférence.
« Qu'est-ce qu'ils lui font ?» poursuit Pepita.
« Il le crucifie, » explique Domenico.
« Allons, tourne-toi un peu plus vers la droite. » « Oui, c'est bien, comme ça. » Domenico n'aime pas parler en peignant. « Qui sont ces gens qui ont un visage si méchant ?»«
Je ne peux pas répondre à tes questions pendant que je peins. Tiens-toi tranquille, un point, c'est tout. »
Intimidée, Pepita se tait. Mais elle n'arrive pas à détacher ses pensées du tableau. Ses yeux se dirigent toujours vers ce tableau inhabituel. Elle se demande ce qu'il peut bien signifier. À chaque fois qu'elle vient dans l'atelier, cette question la tourmente. De temps à autre, elle risque une question, quitte à se faire réprimander. Pourquoi le crucifie-t-il? A-t-il fait quelque chose de mal?
Non.
Ce jour-là, Pepita n'en apprendra pas plus. Mais la fois suivante, elle revient à la charge. Mais s'il n'a rien fait de mal, alors pourquoi l'ont-ils crucifié? Est-ce qu'ils ont reconnu leur erreur et l'ont libéré ensuite?
C'était parce que...
Domenico s'arrête, regarde Pepita et baisse la tête. « Parce que... Bon, puisque tu veux le savoir, je vais te le dire une fois pour toutes. Mais après, tu me laisses tranquille avec tes questions. » Et Domenico lui raconte la crucifixion. Pour Pepita, l'histoire est nouvelle. Domenico, lui, la connaît, elle ne l'émeut plus. Cela ne provoque aucune émotion chez lui de dessiner l'agonie du Seigneur Jésus. Pepita, par contre, en a le cœur presque brisé. Ses grands yeux noirs sont remplis de larmes. Domenico termine les 2 tableaux en même temps. C'est la dernière fois que Pepita pose pour le peintre. Elle regarde son portrait avec indifférence. Il est pourtant très réussi. Puis elle se tourne vers celui de la crucifixion et ne peut le quitter des yeux. « Tiens, voilà ton argent. Et j'ajoute une pièce d'or parce que tu m'as porté chance. » Ton tableau, celui de la danseuse espagnole, est déjà vendu. Lentement, Pepita se tourne vers Domenico et murmure « Vous devez l'aimer beaucoup parce qu'il a fait cela pour vous. » Domenico rougit. Il a honte. La petite tzigane quitte l'atelier en silence, mais la question qu'elle lui a posée résonne sans cesse à ses oreilles. Il se dépêche d'emballer le tableau, mais quoi qu'il fasse, les questions de la petite tzigane ressurgissent toujours. Finalement, il n'en peut plus.
et va se confesser au Père Hugo. Ce dernier l'écoute patiemment. Comme Domenico croit aux enseignements de l'Église, le Père lui donne l'absolution en lui disant « Ne vous faites pas de soucis, tout est en ordre ». Mais Domenico est toujours très malheureux. Il vend le tableau de la crucifixion bien moins cher que prévu. Malgré tout, il ne peut oublier la question « Vous devez l'aimer beaucoup ?» Domenico est de plus en plus tourmenté. Il n'arrive plus à travailler convenablement. Il erre dans les rues de la ville. Un jour, il remarque des gens qui affluent de toutes les directions vers une petite maison située près de la muraille de la ville. Il se demande ce qui peut bien se passer dans cette maison. Quelques jours plus tard, il apprend qu'un prédicateur y a emménagé, un de ceux qui parlent constamment de la Bible. Qui aurait bien idée de se joindre à un tel groupe ? Le simple fait de connaître ces gens peut être dangereux. Mais peut-être pourrais-je justement trouver ici ce que je cherche, se dit Domenico. Un jour, Domenico surmonte ses préjugés et se faufile dans cette maison. Il veut savoir ce qui s'y passe. Il s'installe dans un coin et constate que le prédicateur parle avec beaucoup d'amour de Jésus-Christ. On a l'impression que pour lui, Jésus est tout. Domenico a trouvé ce à quoi il aspirait, une foi vivante, une relation véritable avec Dieu. Sa recherche est arrivée à son terme. Le prédicateur lui prête une copie du Nouveau Testament. Mais, après quelques semaines, ce prédicateur est chassé de Düsseldorf et Domenico doit rendre son précieux livre. Mais l'essentiel est resté gravé dans son cœur. Il a fait tout cela pour moi. Cette pensée le remplit de joie. Il a trouvé le Seigneur Jésus et l'aime de tout son cœur. Il souhaite tellement faire quelque chose pour son Seigneur en retour et parler de lui. Mais comment puis-je parler aux gens de son amour infini, de cet amour qui voudrait aussi les transformer eux ? Son amour est pour tous les hommes, mais beaucoup ne le savent pas. Que puis-je faire ? Je ne sais pas prêcher. Domenico se creuse la tête et machinalement il prend un morceau de charbon de bois qui se trouve par terre. Machinalement il dessine une tête couronnée d'épines. Ses yeux se remplissent de larmes. Et tout à coup il réalise « Mais je sais peindre ! Mon pinceau doit annoncer l'amour de Christ !» Sur le tableau de la crucifixion, son visage n'exprime que les souffrances et l'agonie, mais ce n'est pas l'entière vérité. On doit aussi y lire un amour inexprimable, infini, celui du sacrifice volontaire. Domenico tombe à genoux et prie de tout son cœur. « Seigneur Jésus, aide-moi à te représenter tel que tu es, afin qu'ainsi je puisse être ton messager. » Et Domenico se met à peindre en y mettant tout l'amour qu'il a maintenant pour son maître. Il est profondément ému et reconnaissant de ce que le Seigneur ait exaucé sa prière, car ce tableau n'est pas son œuvre à lui tout seul. Le Seigneur l'a vraiment inspiré. Domenico n'arrive pas à se décider à vendre ce tableau et il finit par l'offrir à la ville de Düsseldorf. Le tableau est accroché dans la galerie publique et les gens affluent pour le voir. Tous ceux qui le voient sont émus et réalisent l'amour de Dieu pour eux. Les mots sous le tableau en latin touchent particulièrement les visiteurs. « Cela, je l'ai fait pour toi ». Domenico lui-même va souvent voir son tableau. Il se met au fond de la galerie, dans un coin, et observe les gens qui se pressent devant son œuvre. Domenico prie alors que Dieu bénisse sa prédication mise en peinture. Un jour, alors que la plupart des visiteurs sont déjà partis, il remarque une fillette en pleurs devant le tableau. Le peintre s'approche et pose sa main sur son épaule. « Qu'est-ce qui te rend si triste, mon enfant ?» La fillette se retourne. « C'est Pepita. Oh, si seulement il m'avait aussi autant aimé, dit-elle dans un sanglot. Je suis seulement une petite tzigane. Vous, il vous a aimé, moi non. » Les larmes coulent sur ses joues, elle n'arrive plus à les retenir. « Pepita, tu te trompes. Son amour est aussi pour toi. » Et Domenico lui raconte toute l'histoire de cet amour. Jusqu'à la fermeture de la galerie, ils sont assis côte à côte et parlent. Le peintre est ravi de pouvoir répondre à ses questions. Il lui explique comment Jésus a vécu, comment il est mort, comment il est ressuscité, puis est entré dans la gloire. Il lui raconte aussi comment il a pris conscience de ce grand amour qui sauve les hommes et les unit à Dieu. Pepita écoute et croit ce message merveilleux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous sommes le 22 mai 1719. Le peintre et la petite cigane sont morts depuis longtemps. Ils sont auprès de Jésus-Christ, dans la gloire éternelle. Un jeune noble entreprend un voyage à Paris dans son magnifique carrosse et arrive à Düsseldorf. Pendant que l'on prend soin de ses chevaux, il va visiter la galerie de peinture. C'est un homme riche et cultivé. Le monde, avec ses richesses et sa beauté, lui tend les bras. Il mènera une vie agréable. Le voilà devant le tableau de Domenico Fetti. Il est très ému. « Cela, je l'ai fait pour toi. » Il lit et relit ces mots. Cet homme est le comte de Zinzendorf. Il connaît le Seigneur Jésus, il lui a confié sa vie alors qu'il était enfant. Mais il doit bien reconnaître qu'il mène une vie égoïste. Il est comme fasciné par ce tableau et pleure à chaudes larmes. Au moment de la fermeture de la galerie, le gardien le prend par le bras et l'invite à quitter les lieux. Le message du tableau de Domenico Fetti transforme la vie du jeune comte. Ce soir-là, il a un long tête-à-tête avec le Seigneur. Il quitte Düsseldorf avec la ferme décision de servir Dieu par sa vie et sa fortune. Sur ses terres, il accueillera des chrétiens persécutés pour leur foi. Il donnera ses biens pour que des hommes et des femmes qui aiment Jésus puissent partir dans des pays lointains afin de parler de lui. Il fait tout ce qu'il peut pour Christ. Cette histoire s'est passée il y a plus de 300 ans à Düsseldorf, en Allemagne. Le tableau de Domenico Fetti ne s'y trouve plus dans la galerie de Düsseldorf. Il a été transféré dans la vieille pinacothèque de Munich. Pour terminer, je vais vous lire un petit extrait du précis d'histoire de l'Église de Jules-Marcel Nicole au sujet du réveil morave et du comte von Zinzendorf. Alors, le réveil morave. Ce mouvement doit son origine au comte de Zinzendorf, 1700-1760. Il fit ses études au collège piétiste de Halle, où il eut quelques difficultés parce que sa conversion n'avait pas été marquée par toutes les émotions que les piétistes préconisaient. Au cours d'un voyage, il fut frappé par un tableau du Christ en croix à Düsseldorf et décida de donner sa vie au Seigneur. C'est l'histoire que nous venons de lire. Peu après, il accueillit sur ses terres, en Saxe, des frères moraves que les persécutions avaient chassés de leur pays et qui appelèrent leur nouveau domaine Herrnhut, la maison du Seigneur, on peut dire. Zinzendorf leur accorda une charte selon laquelle ils devaient accepter le luthéranisme, mais pouvaient continuer à célébrer leurs réunions d'édification mutuelle et nommer à cet effet des anciens. Un culte solennel de Sainte-Seine sembla mettre le sceau de Dieu à cette décision. Zinzendorf, qui se fit consacrer évêque des frères, était plein de zèle. Sa piété était fortement christocentrique, avec quelques excès sentimentaux parfois. Mais la vie religieuse, où les laïcs avaient une place importante, les réunions d'édification mutuelle ou cœur, était intense. Aussi le mouvement ne tarda-t-il pas à se répandre. Les moraves fondèrent tantôt des gouvernements de croyants, dans le cadre des églises établies, comme en Saxe, tantôt des communautés indépendantes, comme en Prusse, en Angleterre et dans le champ missionnaire. Leurs cantiques, simples, joyeux, touchants, devinrent populaires dans tous les milieux. Dans ce siècle de rationalisme, ils maintinrent la foi et la piété en Europe, au point que le terme « morave » devint synonyme de « converti ». Zinzendorf eut d'ailleurs un excellent successeur en la personne de Spangenberg. Parmi les cantiques des frères moraves, il y en a un qui est vraiment passé à la postérité, qu'on trouve sur YouTube facilement, qui s'appelle « La prière des frères moraves ».
Thank you.
Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.